connaître. C'est brutal.
Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Chaque semaine, le père Domergue se rend dans les magasins de disques pour faire ses courses. Il achète toutes les nouveautés de musique black metal qui lui paraissent suspectes. Son but, traquer les attaques antichrétiennes et tout ce qui lui paraît blasphématoire.
Il est malade.
C'est moi ou il y a l'ambiance de merde?
Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Contexte un petit peu particulier pour l'émission de ce soir puisque je suis seule de chez seule. J'ai personne à qui dire bonjour. Vous avez bien vu dehors hein, qu'on est dans un contexte un petit peu particulier. En tout cas pour les personnes qui vivent à Rennes, qui nous écoutent depuis Rennes ou ses alentours, puisqu'il y a de la neige et du verglas. Et donc circuler, c'est très compliqué. Déjà, Tristan, à la base, ne pouvait pas être avec nous ce soir. Il fait sa rentrée à l'école et donc il avait besoin d'avoir un contexte un petit peu tranquillisant. Il est resté, il est à l'école actuellement hein, parce que, autre petite particularité de ce soir, chez vous, il est 21h et des patates. Chez moi, il est 15h parce que je ne puis pas faire cette émission en direct. J'ai un petit peu le privilège dans toute cette histoire d'avoir une table de mixage à la maison qui me permet d'enregistrer mon épisode, mais pas d'être en direct. Donc, on fait avec ce qu'on a. Pierre n'est donc pas avec nous ce soir, donc la technique va me revenir entièrement. J'espère que je ne vais pas faire trop de bêtises. M'en voulez pas, si jamais j'en fais. C'est fort probable que ça arrive à un moment donné. Ce soir, on devait d'ailleurs avoir une interview, puisque le thème de ce soir, allons dans l'ordre, c'était le hardcore. Et donc, qui dit hardcore dit interview d'un groupe de hardcore. Les invités de ce soir, normalement, c'était Piedbouche, un groupe de hardcore originaire de Strasbourg qui est vraiment très très bon, que moi j'apprécie beaucoup, qui ont gentiment accepté de venir chez nous pour une interview qui malheureusement ne pourra pas se faire aujourd'hui. On est en train de s'organiser de manière à quand même pouvoir vous la faire parce que c'est un groupe vraiment génial, mais ça ne pourra pas se faire ce soir. J'ai quand même décidé de vous diffuser un titre de ce groupe-là parce qu'il est exceptionnel et ça, on va le faire avant même de commencer le reste de l'émission. Le titre que j'ai choisi, c'est probablement leur titre le plus connu. C'est celui avec lequel je les ai découverts. Il s'agit de Mandal, c'est sorti en 2020 sur un album, donc le dernier album sorti publiquement du groupe. Il s'agit d'Argentoratus, j'espère que je le prononce correctement, vous savez ma capacité à massacrer les noms. Et le titre, je vous l'ai déjà dit, je vais y arriver, j'ai pas fini de prononcer le nom de l'album. C'est un petit peu perturbant ces conditions vraiment particulières. Mais bon, on va faire avec. Le nom de l'album, c'est donc Argentotarus Flagra, qui est sorti, je sais plus si je l'ai déjà dit, en 2020. Et donc le titre s'appelle Mandal. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après pour vraiment commencer cet épisode.
Mother relates to state, still the same voices deep inside my brain, making my way.
C'était donc Mandal de Piedbouche. Alors pour tout vous avouer, il y a eu un laps de temps de 10 minutes peut-être entre la fin du titre et le moment où je recommence à parler parce que j'avais cliqué sur le mauvais bouton et du coup j'avais de l'écho. Le temps que je comprenne que ça vienne de là, bah, on en est là. J'espère que ça vous a plu, et autant qu'à moi en tout cas. Et j'espère surtout qu'on va pouvoir les recevoir à un moment donné. Si vous entendez un petit peu de bruit derrière, il est probable que ce soit mon chien qui joue. Parce que bah, forcément, je vis dans 30 mètres carrés. On fait avec ce qu'on a. Mais elle est très heureuse, ne vous inquiétez pas. On va donc pouvoir passer maintenant au Blind Guardian et commencer cette émission pour de bon. Parce qu'il est temps d'y aller, en fait. Hein.
Oyez, oyez, gentille dame et gentil d'avoison.
Hé, toi, viens. T'as entendu la nouvelle ?
Alors déjà, quand je vous dis que le monde du métal, il regorge d'artistes absolument exceptionnels et que des fois, il suffit de fouiller un peu. On est le 6 janvier et j'ai déjà découvert un groupe français absolument céleste. C'est Tristan qui a utilisé cette expression la dernière fois, que j'ai trouvé absolument génial. Je la garde. Il s'agit du groupe Pearl, un trio parisien présent depuis 2008 qui déploie un univers musical unique à la croisée du post-metal, du rock progressif avec des touches assez indie et surtout beaucoup de poésie. Le groupe travaille depuis plus de 10 ans à sculpter un style qui ne ressemble qu'à lui avec une approche du clair-obscur qui mêle tension, lyrisme et paysage émotionnel profond. Leur musique, elle est portée par la voix d'Aline Boussaroc, chanteuse absolument merveilleuse qui navigue entre chants clairs délicats, des envolées très intenses, de la narration, comme je le disais, poétique et qui crée une ambiance à la fois introspective et expansive. Leur nouvel album, Architecture du Vertige, est sorti le 24 octobre 2025. Donc en 2025, j'aurais raté ça. Mais bon, l'essentiel c'est qu'en 2026, on se rattrape via Vlat Productions et Inouï Distribution. Il s'agit du 4e album du groupe composé de 7 titres où se croisent des ambiances tumultueuses, des moments contemplatifs avec des invités remarqués comme Sam de Point Mort, un groupe dont je vous ai déjà fait la promotion de nombreuses fois, et même une reprise de Soul Staphir dont je vous ai fait l'éloge durant quasiment toute cette année 2025 à vos côtés, adaptée en français, que je vous invite à aller découvrir. L'œuvre se veut à la fois grandiloquente comme un rêve, sombre comme un naufrage, lumineuse et mystérieuse comme les contours de l'amour, selon les communiqués de presse du groupe. Je ne suis pas poète à ce point. Parmi les morceaux proposés sur cet album, Naufragé des nuages, qui a été choisi comme premier extrait de l'album et qui a été présenté avec un clip. Le titre, il illustre cette esthétique tellement particulière qui oscille entre la rage posée, la poésie intime et la tension musicale constante. Il incarne bien l'identité de l'album et du groupe qui joue avec les contrastes et les nuances. Personnellement, cet album, il est déjà commandé, il est actuellement en transit vers ma boîte aux lettres. Je suis impatiente de pouvoir l'écouter en version physique. Et maintenant, pour vous faire découvrir ce joyau à votre tour, on écoute un extrait de ce titre « Naufragé des nuages » dont je vous ai parlé, tiré donc du dernier album « Architecture du Vertige ».
Thank you.
autant vous dire que si vous êtes comme moi et que vous aimez les groupes qui font des expériences, qui proposent quelque chose de réellement différent, Pearl, ça va vous parler, ça, c'est sûr. On continue avec un flash plus classique avec Linkin Park, qui a récemment fait retirer une vidéo diffusée par la Maison Blanche sur les réseaux sociaux en cause l'utilisation non autorisée du titre Somewhere I Belong. Leur morceau, issu de Meteora sorti en 2003, servait de fond sonore à un montage de communication politique. Le groupe, via son entourage, a rapidement demandé le retrait du contenu, estimant que leur musique ne devrait pas être utilisée sans accord, encore moins dans un cadre institutionnel ou politique. La vidéo a été supprimée peu après. Ce n'est pas un cas isolé pour Linkin Park, qui a déjà par le passé pris position contre l'usage non consenti de ces morceaux par des responsables politiques. Une manière claire de rappeler que la musique n'est pas un outil de communication libre de droit et que le sens d'un morceau appartient aussi à ceux qui l'ont créé. On enchaîne avec une autre actu qui fait débat autour de l'intelligence artificielle dans la création musicale. On y revient très souvent ces derniers temps, c'est pour vous dire à quel point elle prend de la place. Geezer Butler, bassiste mythique de Black Sabbath, a expliqué utiliser aujourd'hui un chanteur généré par IA lorsqu'il travaille sur de nouvelles compositions. Pas pour sortir des morceaux finis, mais pour illustrer précisément ce qu'il a en tête auprès des artistes avec qui il souhaite collaborer. Pour lui, l'IA, c'est un outil de traduction créative. Elle permet de transformer une idée abstraite en quelque chose d'audible, compréhensible, avant que les vrais musiciens n'interviennent. Geezer Butler le sait, l'IA divise énormément, mais il insiste sur un point. Dans son cas, elle n'a pas vocation à remplacer qui que ce soit, seulement à faciliter le processus de création. Et ça soulève une vraie question. Est-ce que l'IA devrait être utilisée uniquement à ce stade-là ? Comme un carnet de croquis sonore, un outil de pré-production qui disparaît totalement une fois l'œuvre finalisée et incarnée par des humains. Parce que de l'autre côté du spectre, on trouve des usages beaucoup plus problématiques. On en arrive à notre troisième nouvelle. Plusieurs groupes de la scène hardcore et metalcore, notamment, pour n'en citer que quelques-uns, Counterparts, Noctluse et The Devil Wears Prada, ont récemment dénoncé un projet musical baptisé Broken Avenue, un projet présenté comme entièrement généré par intelligence artificielle et accusé de plagier de manière flagrante leurs styles musicaux, leurs structures, leurs ambiances, voire leur identité sonore. Le problème ici n'est plus l'outil, mais l'exploitation. Une IA qui se nourrit du travail d'artistes existants sans leur consentement pour produire de la musique qui leur ressemble suffisamment pour créer la confusion. Pour beaucoup de musiciens, c'est une ligne rouge franchie et un signal d'alarme sur la manière dont l'IA peut être utilisée pour copier plutôt que créer. On termine sur une note plus lumineuse. Wolfgang Van Halen, leader de Mammoth, fils d'Eddie Van Halen et neveu d'Alex Van Halen, des petits noms de la scène métal, a récemment affirmé que le rock n'est pas mort. Malgré les discours récurrents annonçant sa disparition, il rappelle que la créativité est bien là, que les albums continuent de se faire et que le public répond présent. Wolfgang Van Halen travaille d'ailleurs déjà sur la suite de Mammoth, avec l'envie de faire avancer le genre sans le vider de son âme. Un rappel simple mais important, le rock n'est peut-être plus dominant, mais il est toujours vivant, incarné et bien réel. Et donc, on va... C'est pas possible. Non, mais non. Je vous avais dit qu'il y aurait des bêtises. Non, mais par contre, ça m'énerve parce que quand je reçois des appels, je les reçois sur mon PC, les joies du Mac. Et du coup, là, la pub, c'est même pas quelqu'un que je connais, vient de perturber le cours de l'émission. Écoutez, ça fait partie des aléas, pas du direct, puisque je ne suis pas en direct, mais du bricolage à la maison, finalement. Et donc, après, l'essentiel, c'est qu'on n'était pas en train de parler, ça m'a pas perturbé. On va pouvoir passer donc à notre plat de résistance, notre épisode dédié au hardcore, de ses origines punk jusqu'à aujourd'hui, un style qui s'est métallisé au fur et à mesure du temps, vous allez le voir. Cet épisode, je l'ai nommé très sobrement « Je pite, donc je suis ». Et je vous ai préparé, évidemment, comme d'habitude, une petite virgule. On écoute tout de suite.
Cheated. Good night. MTV, get off the air! L'inspiration pour nous, elle vient vraiment de plutôt de ces groupes-là, les Verrues, Parabellum, Sheriff, OTH, même Manonégra, enfin voilà, la scène rock en fait.
Comme je vous le disais lors des premiers épisodes de cette émission, je ne vous l'ai pas dit encore, c'était à la base, je devais vous en parler, j'ai oublié. Lors des premières émissions de Qui les vilaines, je vais baisser un petit peu le tapis parce que je sens qu'il est un peu fort, il ne faut pas que j'oublie de le réaugmenter pour le prochain extrait. Avec Tristan, au début de l'année 2025, donc l'année, c'est même pas le début de l'année 2025, c'était en septembre. C'était un petit peu après le début de l'année. On avait donc commencé cette émission avec notamment deux épisodes dédiés au metalcore. Et on avait passé un bon moment à vous en décrire les origines. L'une d'entre elles, c'était le hardcore. Donc j'avais envie en tout cas moi personnellement aujourd'hui d'y dédier un épisode puisque... tout ça, ça ne vient pas de nulle part. La musique que l'on écoute aujourd'hui ne vient pas de nulle part. Et donc, je vous propose pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait dans ses débuts de vous passer un petit extrait de hardcore. Oula, non, ça c'est pas le bon hardcore. Mais non, mais c'était pour voir si vous suiviez, promis, c'était calculé. Non, mais on écoute vraiment cette fois-ci un extrait de hardcore, un titre qu'on va diffuser intégralement puisqu'il dure une durée très 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 longue de 45 secondes. On écoute ça tout de suite. Certains d'entre vous l'auront peut-être identifié, il s'agit du titre Straight Edge de Minor Threat, issu de l'album First to Seven Inches, sorti en 1984. Mais avant d'en arriver là, il faut encore revenir en arrière. Fin janvier 1978, les Sex Pistols terminent leur tournée américaine dans le chaos. Sur scène, Johnny Rotten, le vocaliste, lâche un « Ever get the feeling you've been cheated » devenu légendaire, que l'on entend d'ailleurs dans la virgule que je vous ai préparée pour cet épisode. Le message est clair, le groupe est fini. À ce moment-là, Sid Vicious n'est plus vraiment un musicien. Dépendant à l'héroïne ultra instable, il incarne davantage le mythe punk autodestructeur que celui du bassiste des Sex Pistols. En octobre 1978, tout bascule. Nancy Spungen, sa compagne, est retrouvée morte poignardée dans leur chambre d'hôtel à New York. Sid est arrêté puis libéré sur caution en attendant son procès. Mais il ne tiendra pas jusque-là. Le 2 février 1979, à seulement 21 ans, il meurt d'une overdose d'héroïne. La fin des Sex Pistols marque aussi celle de Sid Vicious, un symbole du passé, passé en un an de la provocation à la tragédie. Après la mort de Sid Vicious, c'est toute une image du punk britannique qui semble s'effondrer. Un mouvement né pour choquer, brûler vite, quitte à se consumer lui-même. Au Royaume-Uni, le punk laisse place à une autre forme de noirceur, plus froide, plus introspective, qui nourrira le rock gothique et post-punk des années 80 jusqu'à devenir la nouvelle référence alternative. On peut notamment citer un énorme groupe de cette mouvance, le plus gros probablement. Il s'agit de Type O Negative. Mais pendant que le mythe se fige en Europe, ailleurs, quelque chose est en train de naître. aux États-Unis, une autre graine se plante, un punk plus frénétique, plus radical, débarrassé du folklore et des icônes. Un punk qui veut survivre plutôt que mourir jeune. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le punk hardcore. Il est aujourd'hui encore difficile de réellement définir quel a été le premier groupe, le premier album à avoir été de ce mouvement, mais quelques pistes se présentent à nous. La première, il s'agit de Bad Brains, issu d'un groupe de jazz fusion nommé Mind Power et formé sous le nom de Bad Brains en 1980, HR pour Human Rights. Le vocaliste raconte donc « Nous voulions jouer une musique qui heurtait les riches qui ont oublié l'émotion ». La seconde, c'est Black Flag, une des plus grosses références du genre, avec l'EP Nervous Breakdown, sorti en 1979. Cet EP, il aurait d'ailleurs pu voir le jour plus tôt, puisque le travail du groupe avait d'abord intéressé, environ 2 ans plus tôt, le label indépendant Bomp, qui décidera finalement de ne pas le publier. Les deux membres fondateurs de Black Flag, le guitariste, compositeur principal et seul membre permanent de la formation Greg Ginn, ainsi que le bassiste Chuck Dubowski, fonderont avec des amis sonorisateurs Mugger & Spot leur propre label SST Records, SST pour Solid State Transmitters, qui deviendra par la suite un label majeur de la scène underground indépendante. Il signera notamment Sonic Youth, Meat Puppet, Euskirdew et j'en passe. On écoute tout de suite un extrait de cette EP. Il s'agit de Nervous Breakdown, donc le plus connu d'entre eux. C'est parti. Une troisième piste envisageable, c'est The Middle Class et leur album Out of Vogue, sorti quelques jours avant l'EP de Black Flag, mais ce dernier, comme je vous le disais, était prêt à sortir depuis bien longtemps. Un album contenant non pas moins de 15 titres pour une durée exceptionnelle de 26 minutes. Et oui, le hardcore, c'est une de ses particularités. C'est souvent très court, on est vraiment sur l'inverse du prog, en tout cas dans ses origines. C'était fait pour être très nerveux, très rapide et diffuser un message très rapidement. Mais alors, qu'est-ce qui définit clairement les codes du hardcore ? Parce que des titres courts et nerveux, c'est pas forcément du hardcore. Un journaliste et écrivain de la musique nommé Michael Azerrad résume les choses de manière plutôt claire. Dès 1979, la scène punk originelle en Californie du Sud, pour compléter, avait presque entièrement disparu. Elle a été remplacée par une bande de type plutôt dur, venue des banlieues périphériques, qui commençait à peine à découvrir la vitesse, la puissance et l'agressivité du punk. Se débarrassant de toute prétention, ces jeunes ont réduit la musique à son essence, puis ont accéléré les tempos. Ils ont appelé le résultat hardcore, donnant naissance à une musique plus jeune, plus rapide et plus en colère, rempli de rage contenue. Mais le hardcore n'est pas seulement une question de vitesse, c'est très vite un genre qui va porter avec lui des valeurs fortes, parfois même plus importantes que la musique elle-même. Le hardcore, c'est une scène qui se construit en marge, loin des grandes maisons de disques, loin des circuits traditionnels, et c'est là qu'apparaît l'une de ses valeurs fondatrices, le DIY, le do-it-yourself, faire soi-même, organiser ses concerts, presser ses disques, imprimer ses flyers, monter ses tournées, pas par posture, pas par romantisme, mais par nécessité. Parce que personne ne voulait de cette musique à la base. Et parce que ceux qui la faisaient n'avaient aucune envie d'en édulcorer la violence ou le message pour rentrer dans les cases de major. Le DIY dans le hardcore, ce n'est pas seulement un argument en marketing, c'est une manière de reprendre le contrôle, de rester fidèle à ce que l'on est, à ce que l'on vit et à ce que l'on veut dire. On va écouter un titre qui m'a personnellement accompagné pendant toute mon adolescence. Il s'agit de Waiting Room de Fugazi. Une autre valeur va émerger très tôt dans la scène hardcore, c'est le straight edge. À l'origine, ce n'est pas un mouvement moraliste ni une règle imposée, c'est avant tout une réaction à l'image du punk autodestructeur consommé par l'alcool et les drogues consommées, pardon. Une réaction à l'idée que pour être authentique, il faudrait forcément se détruire. Avec des groupes comme Minor Threat, l'extrait qu'on a écouté au tout début s'appelait d'ailleurs Straight Edge, le message est simple, être en colère, être radical, être intense, sans perdre le contrôle. Le Straight Edge, c'est refuser l'ivresse comme unique horizon de liberté. C'est affirmer que la lucidité peut-elle aussi être subversive. Bien sûr, tous les groupes hardcore ne sont pas straight edge, et heureusement. Mais l'idée, elle reste là, dans le hardcore, l'important ce n'est pas d'adhérer à une doctrine, c'est d'être cohérent et d'être authentique. Le hardcore, c'est aussi une scène qui refuse la hiérarchie classique entre l'artiste et le public. On enlève les barrières, on enlève les scènes surélevées quand ce n'est pas nécessaire, on ne fait pas de stars intouchables et sacralisées. Le chanteur, il est dans la fosse, le public est sur la scène, en fait, c'est souvent les deux en même temps. Cette proximité, ce n'est pas un gimmick, elle traduit une idée centrale, le hardcore appartient à celles et ceux qui le font vivre. C'est une musique de communauté, de lieu, de scène locale, de réseau humain. Une musique qui se transmet de bouche à oreille, de concert en concert, de génération en génération. La colère du hardcore, on en a déjà parlé, elle n'est pas gratuite. Elle parle de précarité, d'aliénation, de violence sociale, de rejet, de marginalité. Elle parle aussi de solidarité, de respect, d'inclusivité, même si la scène n'a pas toujours été parfaite sur ces sujets. Le hardcore, c'est une musique qui pose une question simple. Qu'est-ce qu'on fait de notre rage, la subir ou la transformer en quelque chose de collectif, de vivant et de constructif? S'il y a bien un groupe qui incarne le hardcore punk comme une arme politique, c'est Dead Kennedys, un autre groupe qui, moi, a bercé mon adolescence. Formé à San Francisco à la fin des années 70, le groupe explose à un moment où le punk durcit le ton, donc ce punk hardcore plus rapide, plus énervé, et surtout beaucoup plus frontal. Avec Jello Biafra au chant, Dead Kennedys balance des textes acides, satiriques, qui tapent sur tout ce qui bouge. Le conservatisme, la police, le capitalisme, les médias, l'hypocrisie américaine en général en fait. Rien n'est sacré et c'est fait exprès. Musicalement, c'est un hardcore encore très punk, très tendu, très nerveux, presque hystérique par moments, qui pose les bases d'un hardcore engagé, conscient, qui refuse de juste divertir. Dead Kennedys, c'est pas là pour faire danser, c'est là pour déranger. Musicalement, c'est un, je l'ai déjà dit, et si aujourd'hui le hardcore est autant associé à des valeurs politiques fortes, à l'esprit DIY et à la contestation, Dead Kennedys y sont clairement pour quelque chose. On va écouter un titre entier de, il s'agit de Police Truck, sorti sur leur premier album en 1980, Fresh Fruit for Rotting Vegetables, les fruits frais pour des légumes pourris. Une satire très noire des violences policières et de l'abus de pouvoir. La chanson, elle est écrite directement du point de vue des policiers, en forçant volontairement le trait pour exposer les dérives du système. Par exemple, quand il balance « It's roundup time where the good hoes meet, we're gonna drag one screaming off the street. » C'est, pour la traduction littérale, « C'est l'heure de la rafle où traînent les putes, on va entraîner une en hurlant hors de la rue. » Ou encore la phrase « Playing cops for real, playing cops for pay », donc jouer les flics pour de vrai, jouer les flics pour la paye, qui dénonce des flics qui ne jouent pas à être policiers, mais à exercer une violence qui est bien réelle, rémunérée et protégée par leur statut. On se retrouve juste après.
Down, gonna beat up the rocks. You're gonna drive, I'll bring the beer. It's a late, late ship, no one to fear. I'll ride, ride, I'll ride. And ride, you ride. It's a round up.
we're gonna drive one screaming off the street and ride. A form and a silver badge for late cops for real and play cops for pay. Let's ride, dress is a kick in the ass. Let's reach your balloon till you shit in your pants. No move, child, got a big black stick. There's six of us, babe, so suck on my dick. And ride, ride, how we ride. Let's ride, you ride. The left newspapers by who I'm a bit. But the guys at the station, they don't give a shit. Dispatch calls, oh, you're doing something wicked. No sorry, Jack, we're just giving tickets. Let's ride.
Alors, si le hardcore n'est jamais vraiment mort, il a trouvé en certaines villes des pépinières uniques. Et en France, s'il y a bien une ville qui a marqué l'histoire du hardcore, c'est Rennes. Oui, notre ville, Rennes, la ville étudiante, celle des cafés alternatifs, des salles associatives et des squats qui vivent au son de la rage depuis les années 90. Parce qu'ici, le hardcore, il n'est pas seulement écouté, il se vit, il se construit, il se partage. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on parle à travers toute la France de la ville des punks à chiens. Même si punk, non pas tous des chiens. Dès la fin des années 90, des collectifs et des groupes locaux commencent à structurer ce qui était encore une musique très très underground. À cette époque, Internet n'est pas partout, donc tout repose sur le bouche à oreille, les fanzines et les concerts dans des lieux parfois improbables. Des publications comme Artside Report ou In the True Spirit permettent aux groupes rennais de se connecter à la scène hardcore internationale et de diffuser leur musique bien au-delà des murs de leur salle. Chaque démo, chaque flyer imprimé à la photocopieuse, chaque concert organisé est une victoire pour cette scène émergente. Parmi les premiers jalons, il y a Stormcore, actif au début des années 90, qui pose les bases du hardcore rennais avec des démos disponibles dès 1993. Mais Stormcore, ce n'est pas qu'un groupe, c'est aussi la création du label Overcome Records, fondé par David Mansilla, le vocaliste du groupe, en 1997. Ce label, il devient rapidement un véritable moteur pour publiant et distribuant des groupes locaux et connectant donc Rennes aux scènes hardcore américaines et européennes. Dans les années qui suivent, Rennes voit apparaître d'autres groupes emblématiques qui font le pont entre hardcore old school et modernité. Face Off, formé en 2014, un groupe technique et engagé. Hipscore, qui en vérité est originaire de Nantes, qui aujourd'hui a un petit peu repris le flambeau de cette scène hardcore, mais donc ils se sont formés en 2013 et ils sont très actifs ces derniers temps. Ça valait le coup de les mentionner. On va d'ailleurs écouter un extrait juste après de Master of Boom, un titre qui est issu de leur discographie, ils mélangent le hardcore, le metal et le grind avec beaucoup d'humour. SID, Sid, je ne sais jamais comment le prononcer, formé en 2020, un trio skate punk hardcore chanté en français, très très direct et brut. Et puis bien sûr, Man and Sin, formé en 2015, Heavy et Hybrid, qui a fêté en 2025 10 ans d'intensité sur scène. Et puis tout de suite, bah, on écoute l'extrait Deep Score, donc Master of Boom. On retrouve aussi des groupes comme Critical Times et Entertain the Terror qui font partie du Rennes Hardcore Crew qui propose un son plus lourd, plus groovy, souvent croisé avec le beatdown américain. Ces groupes y montrent que la scène française, la scène rennaise, n'est pas figée. Elle évolue, elle innove, mais elle reste fidèle à ses racines. Et on va écouter un petit extrait de Entertain the Terror avec leur titre Self-Esteem. Côté organisation, Rennes a également été précurseur. Des associations comme Garmon-Bodia, dont on vous a déjà parlé de nombreuses fois, fondées en 1998, ont permis de programmer des centaines de concerts metal, hardcore et punk sur deux décennies, pas seulement à Rennes, mais aussi à Nantes et à Paris. Ces structures, elles montrent que la scène rennaise n'est pas seulement un lieu où les groupes jouent, elle crée un réseau, une culture et une communauté. Le DIY, ici, ce n'est pas un concept abstrait. Il se traduit dans chaque concert autogéré, chaque flyer imprimé à la maison, chaque tournée organisée sans passer par de grandes maisons de disques. Rennes est devenue une référence nationale, une ville où le hardcore peut respirer, s'expérimenter et se transmettre de génération en génération, même si, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est plutôt Nantes qui fait partie de ce mouvement. Aujourd'hui encore, Rennes vibre hardcore cependant. Des festivals comme le Rosen Rage, organisé par l'association Les Enragés, célébraient en 2025 30 ans de musique extrême et de culture alternative. On vous avait d'ailleurs fait gagner des places pour cet événement. Les programmations locales régulières, comme à la MJC Le Grand Cordel, rassemblent groupes rennais et groupes nationaux pour des concerts toujours intenses et collectifs. C'est cette vitalité qui permet au hardcore de continuer de vivre, non pas comme un souvenir, mais comme une force, comme un flux permanent qui traverse les générations et les sous-genres. Et Rennes, avec son esprit, ses salles, ses collectifs et ses groupes montrent que le hardcore n'est jamais vraiment mort. Il est simplement mouvant, changeant, il évolue. Chaque concert à Rennes aujourd'hui n'est pas juste une performance, c'est littéralement une transmission. Chaque jeune groupe qui monte sur scène reprend le flambeau, continue l'histoire et garde vivant un héritage qui dépasse la musique elle-même. Parce que si le hardcore a survécu 3 décennies, ce n'est pas seulement grâce à ses riffs ou sa vitesse, c'est grâce à ce lien humain, cette culture vivante, partagée et protégée par tous ceux qui la font, qui l'ont fait et qui la feront exister. C'est exactement ce qui continue de se passer à Rennes, la capitale française du hardcore, avec Nantes. J'ai pas trop envie de lâcher le fait que nous le soyons toujours. Et pour illustrer ce flux permanent, cette énergie qui traverse les générations, qu'un exemple concret, évidemment, un groupe qui continue de porter l'intensité et la créativité du hardcore rennais encore aujourd'hui. Le hardcore moderne, je me suis un petit peu trompée, on va pouvoir écouter, pardonnez-moi, Critical Times avec Keepers of Groove, sorti en 2023. Les changements de feuilles, c'est pas toujours la meilleure des idées, il faudra un prompteur, mais c'est du bricolage, je l'ai dit déjà, ou pas. Donc un morceau qui prouve que le hardcore de Rennes n'est jamais vraiment perdu sa rage et continue de se réinventer, c'est donc Keepers of Groove de Critical Times avec une sortie qui date de 2023. Je vais y arriver. Watch out to offer critical times of art. With the devil around us to crack the art. I, the still a death with one. Yeah, simple ask if I can break my freedom. What? 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 What do you make of here? In the ears, sound of the danger. So neat. Get the higher picture, the world is colder. Then, we became a thief, the market. I think I've been born yet. Boring, turn to rain. Always to be real. Hit the sins on your mind. Turn the soul violent. Burn the pins on your mind. Burn it forever. On arrive à la fin des années 80, début des années 90, en dehors de cette parenthèse dédiée à la scène rennaise, puisque c'est le moment où le hardcore il commence déjà à se transformer. Au contact du métal, il donne naissance au thrash crossover avec des groupes comme Suicidal Tendencies, DRI ou Cro-Mags qui mélangent la vitesse et l'agressivité du hardcore avec des riffs plus lourds, plus techniques, hérités du thrash metal. Ça porte bien son nom. Cette hybridation marque un premier tournant. Le hardcore cesse d'être uniquement punk pour devenir une matrice sur laquelle d'autres formes de musique extrême vont pouvoir se greffer et s'appuyer. Et on va écouter un titre de Suicidal Tendencies. On va le diffuser en entier puisqu'il dure plus ou moins une minute. Il s'agit de Two-Sided Politics. Dans les années 90, cette logique de croisement, elle s'amplifie encore avec l'émergence du metalcore, un genre qui reprend la rage, les breakdowns et les tics du hardcore tout en intégrant des structures et des sonorités qui sont clairement métalliques. Des groupes comme Hatebreed, Earth Crisis, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, ou alors Converge incarne cette transition, une musique toujours ancrée dans la scène hardcore, mais qui parle désormais le langage du métal extrême. Et pour illustrer ça, on va pouvoir écouter un extrait de Make the Demons Obeys de Hatebreed. C'est parti. C'est aussi à cette période qu'une autre branche, plus grand public, mais tout aussi héritière du hardcore, explose. Il s'agit du new metal. Derrière des groupes comme Korn, Limp Bizkit ou Linkin Park, on retrouve des éléments directement issus du hardcore, une importance centrale du rythme, une musique pensée pour l'impact physique, une proximité avec le public et surtout des textes qui parlent de colère, de mal-être et d'aliénation sociale, entre autres. Même si le new metal, il a souvent été opposé au hardcore, surtout à l'époque où les deux se frictionnaient, entre guillemets, il en partage pourtant une grande partie de l'ADN, notamment dans sa manière de canaliser la rage et de la rendre collective. Alors, je fais un aparté, ça n'a peut-être rien à voir avec notre histoire de hardcore, j'en suis pas sûre, vous me direz, mais il fallait que je vous raconte cette anecdote à tout prix, si vous ne la connaissez pas déjà. Ce moment, dans cette chanson de Linkin Park, où on entend Chester crier « Shut up, shut up, shut up when I'm talking to you », qui veut littéralement dire « tais-toi, 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 tais-toi quand je suis en train de parler. Ça ne vient pas de nulle part. L'enregistrement d'Hybrid Theory, le premier album de Linkin Park, où figure donc ce titre One Step Closer, se fait dans un contexte ultra tendu entre le groupe et leur major Warner, chez qui ils avaient signé quelques mois auparavant, pour des raisons que je ne vais pas évoquer, parce que sinon on va y passer la nuit. Leur producteur, Don Gilmore, qui ne comprend pas vraiment la direction de Linkin Park et leur projet, leur fait répéter les prises une trentaine de fois systématiquement, leur demande de combler des vides, ne semble finalement jamais satisfait de ce qu'ils produisent, et les sessions sont de grosses zones de friction. Lors d'une session en particulier, fatigué, Chester est entré dans une colère assez intense et a commencé à écrire des paroles sur ce qu'il ressentait. Mike a trouvé ça génial, Mike Shinoda, donc ils sont entrés en studio et ils ont commencé à crier ces fameuses paroles qui sont aujourd'hui un culte absolu du groupe. Fin de la parenthèse. On revient à notre hardcore. Dans les années 2000 et 2010, le hardcore il continue de se diffuser dans de nouvelles formes encore plus modernes. L'apparition du djent est un exemple frappant. Popularisé par des groupes comme Meshuga, puis Periphery, Tesseract ou Monuments. Alors on ne peut pas dire qu'ils soient tous du hardcore, mais disons que les deux, le djent et le hardcore, se sont croisés à un moment donné. Donc, c'est un le djent, pour vous décrire un petit peu ce que c'est. C'est une manière de jouer qui met l'accent sur des riffs très syncopés, des guitares qui sont accordées très bas, et puis une approche rythmique quasi mécanique. Et là encore, on y trouve une filiation avec le hardcore, de la virtuosité, mais pas gratuite, plus de tension, de répétition et de puissance physique. Et pour illustrer ça, on va écouter un extrait de Monuments avec leur titre « I, the Creator ». Cette influence, elle se retrouve massivement dans le metalcore moderne et aussi dans le deathcore. Des groupes comme Architects, Northlane, Veils of Maya, After the Burial ou Humanity's Last Breath intègrent des éléments djent tout en conservant l'énergie et l'agressivité qu'ils ont hérité directement du punk hardcore. Le breakdown devient un langage commun, un moment de communion collective pensé pour le live autant que pour l'écoute. Et pour illustrer ça, on va pouvoir écouter un titre qui est donc sorti, il me semble, l'année dernière. C'est un excellent titre, je vous le garantis. Il s'agit d'une collaboration entre We Came As Romance, After the Burial et Currents, dont je vous avais déjà parlé lors de mon bilan 2025, puisque ça a été une de mes grosses découvertes de l'année. Et donc, le titre s'appelle Bad Luck. On en écoute un extrait tout de suite.
So I'm back in chance.
Et pendant que certaines branches s'ouvrent à des formes toujours plus techniques ou métalliques, d'autres choisissent de revenir à une expression plus directe du hardcore. Des groupes comme Knocked Loose incarnent parfaitement cette nouvelle génération, une musique extrêmement violente, lourde, mais profondément ancrée dans l'esthétique et les valeurs du hardcore. On écoute un extrait tout de suite d'un de mes titres favoris de ce groupe. Il s'agit de Blinding Face. On se retrouve juste après. C'est un des extraits les plus courts de cette émission. Donc ce ne sera pas très long, vous inquiétez pas. On se retrouve tout de suite. Je vous avais parlé de violence, je crois. Mais si vous aimez ce genre de musique qui sont littéralement des murs de son et que vous aimez vous en mettre plein les oreilles, je vous promets que si vous n'avez jamais encore été du côté de Knocked Loose, allez-y, les yeux fermés. C'est un groupe absolument merveilleux que personnellement, moi j'apprécie beaucoup et qui fonctionne tellement bien qu'aujourd'hui ils font des featuring avec des artistes métal qui ne sont pas considérés comme des gros violents. On a notamment une collaboration sur leur dernier album avec Poppy, qui est une artiste que moi aussi j'aime, que j'aime également hein, énormément, mais qui est un peu aux antipodes de la violence la plupart du temps en termes de métal. À l'inverse, également, Turnstile, qui explore une voie plus ouverte, plus mélodique, intégrant des influences funk, du rock alternatif aussi, de la new wave, tout en restant connecté à la scène hardcore par son énergie et son esprit communautaire. Et on va écouter un extrait, ça a été très dur de choisir le bon extrait de cette chanson, parce que c'est probablement ma préférée de Turnstile. Il s'agit de Mystery, qui était sorti sur leur dernier album, avant-dernier album, je raconte des bêtises, je parle trop vite, c'était l'album Glow On. Ça me donne envie de danser alors que je n'aime pas danser et que je ne suis pas particulièrement douée pour ça, d'ailleurs. D'autres formations comme La Dispute ou The Dillinger Escape Plan montrent à quel point le hardcore peut aussi être un terrain d'expérimentation émotionnelle et formelle. La Dispute utilise la rage hardcore pour raconter l'intime, le traumatisme, la mémoire, tandis que The Dillinger Escape Plan pousse l'héritage hardcore dans une direction chaotique et mathématique. On appelle ça souvent d'ailleurs le math punk, le math rock en fait. C'est des formes de musique qui n'ont jamais de refrain, qui sont très très anarchiques en fait dans la forme, mais ça fonctionne très bien. Qui brouille hein, des frontières entre le punk, le métal et le noise. Et pour bien sentir cette intensité et cette capacité d'expérimentation, on va écouter un intégral, un morceau emblématique de La Dispute. Ici, tout est dans le détail. La rage hardcore sert donc à raconter cet intime, ces traumatismes, cette mémoire. Et chaque note et chaque cri ont du sens. Voici cette The King to the River. On se retrouve juste après passez un excellent moment. C'était donc « Said the King to the River » de La Dispute, un groupe absolument merveilleux que, encore une fois, je vous invite vraiment à aller découvrir. C'est issu de leur premier album, qui a un nom beaucoup trop long. Je peux attraper mon téléphone, j'ai regardé cet album, il est sorti en 2008. J'arrive pas à lire le titre en entier, peut-être que sur la pochette, il est écrit. Il est effectivement écrit, mais c'est très pixelisé. Je ne peux pas aller jusqu'au bout, je peux vous donner le début. Somewhere at the bottom of the river between. On n'a pas la suite. Et donc, un album qui date de 2008. Ils sont encore actifs, puisque je viens de m'apercevoir qu'ils avaient sorti donc un album en 2025, en début septembre. J'avais pas suivi cette histoire. Bah, je vais aller écouter ça juste après l'enregistrement parce que j'ai pas bien fait mon travail, visiblement. On reprend donc cette évolution du hardcore. Elle se reflète aussi dans les festivals. Le Hellfest, aujourd'hui devenu l'un des plus grands festivals métal du monde, le plus grand d'Europe, est à l'origine profondément marqué par l'esprit hardcore. Une programmation alternative, des liens avec les scènes locales, l'indépendance et la proximité avec le public. Mais avec le temps, la structure s'est professionnalisée et élargie, attirant des têtes d'affiches internationales et avec elles, certains choix problématiques. Certains groupes programmés, vous le savez, ont véhiculé des messages souvent suprémacistes blancs, des messages homophobes ou en tout cas des messages radicalement de droite. Et comme vous l'aurez compris, le hardcore, c'est un mouvement qui se veut plutôt de la gauche, voire souvent de l'extrême gauche. Et donc, c'est des positions qui sont clairement à l'opposé du hardcore, qui a toujours été un espace de contestation sociale, d'inclusivité et surtout de solidarité. Cette tension, elle illustre bien un enjeu majeur pour le hardcore aujourd'hui, comment préserver l'esprit critique, l'éthique et la communauté dans un contexte de visibilité et de succès commercial. Comment rester fidèle à des racines anti-autoritaristes, DIY et inclusives, alors que la scène devient un produit global. La question, elle reste ouverte, elle montre que le hardcore, même quand il devient grand public, continue de poser des choix et des défis éthiques, aussi bien que musicaux. Et pourtant, malgré ces mutations, malgré ces changements d'échelle, le hardcore continue d'exister là où il a toujours été le plus fort, c'est-à-dire dans les scènes locales. Dans les salles, les squats, les bars, les réseaux associatifs, comme le nôtre par exemple ce soir, là où la musique se vit avant d'être consommée. Le hardcore n'a jamais cessé de se transmettre, que ce soit dans ses formes les plus brutes ou dans ses incarnations les plus modernes. C'est vrai que quand on écoute un extrait de Dead Kennedys et un extrait de Turnstile, on aurait facilité à se dire que ces deux genres n'ont absolument rien à voir. Et pourtant, Turnstile sont aujourd'hui le groupe héritier, le groupe de hardcore le plus connu sur la scène mondiale, et c'est celui qui fonctionne le mieux actuellement. Et donc, le hardcore, ce n'est pas un genre du passé, c'est un langage vivant qui continue d'influencer le métal contemporain, les musiques alternatives et les scènes locales. Une musique qui évolue, qui se transforme, mais qui repose toujours sur cette question fondamentale: comment transformer la colère en quelque chose de collectif, de vivant et de durable. Ce n'est pas juste une branche du punk qui gueule plus fort, il a été un vrai catalyseur de transformation pour l'ensemble des musiques extrêmes et en particulier pour le métal. Dans les années 80, alors que certains courants métal étaient parfois virtuoses ou même spectaculaires, un petit peu, vous pouvez réécouter notamment notre épisode sur le thrash metal où on vous parlait de aussi comment le thrash était né en réaction à toute cette glorification des musiciens dans le heavy, de toute cette surproduction, cette manière d'aborder la scène. Et en fait, il y a eu vraiment à ce moment-là, avec le thrash et avec le hardcore qui se sont croisés à un moment donné, le thrash crossover, on en a parlé, il y a vraiment eu cette envie de revenir à des choses essentielles, des choses simples et qui racontent des choses de la vraie vie. Et donc, le hardcore, c'est arrivé un petit peu avec une logique radicale, rapide, directe et sans compromis. Cette urgence, elle a poussé des formations métal à intégrer de la vitesse, de la nervosité et une agression différente dans leur composition. Des mouvements comme le crossover thrash, incarnés par des groupes qui fusionnaient le hardcore et le thrash, je vous l'ai déjà dit 50 fois, ont directement repoussé les limites de ce qu'on entendait d'un groupe de métal et donc à l'époque de heavy. Cette hybridation, elle ne s'est pas contentée de faire du bruit, elle a transformé le métal en profondeur, en bousculant les structures, les tempos et le rapport live avec le public. Sans ça, des genres comme le thrash, le grind ou même certains aspects du death metal n'auraient pas existé tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et je vous invite d'ailleurs, il y a une interview qui existe sur YouTube du vocaliste de Hatebreed qui parle de sa passion pour le death metal, le black metal, pardon, je raconte n'importe quoi, je confonds toujours les deux, vous commencez à connaître la chanson, mais c'est pas la musique en elle-même, c'est vraiment les noms. Je crois que c'est pas grave, mais je fais beaucoup trop souvent l'erreur. Et donc le chanteur de Hatebreed, il raconte cette proximité entre le black, le death et le hardcore, qu'on pourrait croire complètement opposés, qui finalement se rejoignent sur beaucoup d'aspects. Et une grande partie des styles qu'on considère aujourd'hui comme métal n'a pas émergé uniquement du métal traditionnel, mais d'une rencontre entre ce métal et le hardcore. On peut parler notamment du metalcore, du grindcore, du thrash crossover, encore une fois, il revient. Et donc, quand on écoute aujourd'hui des styles comme le deathcore, le metalcore moderne ou des formes hybrides, on entend encore la trace du hardcore dans leur ADN structurel, rythmique et culturel. Au-delà du son, le hardcore a apporté une culture du faire soi-même, organiser des concerts, autoproduire des disques, développer des scènes locales, créer des flyers, des réseaux d'échange, etc. C'est cette mentalité qui a permis à des scènes underground de prospérer sans forcément dépendre de majors ou de circuits institutionnels. Cette philosophie, elle a profondément marqué la scène métal aussi, qui est historiquement passée par beaucoup de structures indépendantes avant d'être mainstreamisée, si on peut dire ça comme ça. Sans le hardcore, de nombreux groupes métal n'auraient jamais eu d'espace pour exister ou se diffuser. Et ce qui distingue le hardcore, c'est que s'il n'est pas seulement un son, mais une manière de vivre et de penser la musique, avec une solidarité entre les musiciens, une proximité entre la scène et le public, et surtout une critique sociale qui est assumée. Ces valeurs, elles ont infusé dans la culture métal dans son ensemble, surtout dans les scènes underground et alternatives, où la musique n'est pas seulement un produit, mais un outil d'expression collective. Aujourd'hui, des dizaines de groupes métal incarnent des éléments qui viennent directement du hardcore. Les mosh pits, on en a déjà parlé, cette manière viscérale de réagir à la musique, c'est un héritage direct du punk et du hardcore. Ce type de danse s'est ensuite donc répandu dans les concerts métal à mesure que scènes se mélangeaient et que genres se croisaient. Même chez des groupes métal modernes qui ne se revendiquent pas du hardcore, on retrouve des structures rythmiques et une intensité qui viennent directement des innovations du hardcore et de ses croisements. Il a montré qu'il n'avait pas de barrière fixe entre le punk et le métal. Aujourd'hui, on est vraiment dans ce flou, dans cet entre-deux. Et cette ouverture, elle a permis au métal de se renouveler, de s'ouvrir à des influences diverses, de générer des styles riches et variés. Et c'est en partie pour ça qu'aujourd'hui, le métal, il se divise en plus de 250 catégories de métal différents. Et encore, c'est ceux qu'on a nommés. Le hardcore s'est construit comme une communauté globale plutôt qu'un simple genre musical. Et cette communauté, elle a permis aux idées, aux pratiques et aux sons de voyager et d'influencer multiples scènes. On peut même parfois sortir du métal. Je suis pas assez experte pour vous en parler, mais je peux vous jurer que beaucoup, beaucoup d'artistes qui ne sont même pas des cultures alternatives et underground s'inspirent des fois des formules, de la manière qu'a le hardcore de faire sa musique. Et plutôt que de disparaître, le hardcore s'est transmis, s'est mélangé à d'autres formes, a participé à des renaissances périodiques, intégrant des nouvelles influences tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales. C'est ce mélange de culture, d'éthique et d'innovation musicale qui explique que ce mouvement, malgré sa marginalité initiale, est un impact profond et durable sur la musique d'aujourd'hui. C'est la fin de notre bloc dédié au hardcore. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop descendant et linéaire. C'est vrai que quand on est seul, et vraiment seul, pour faire une émission, c'est parfois difficile de savoir si ça fait trop cours de maths. Vous voyez ce que je voulais, enfin cours d'histoire surtout là, dans ce genre de situation. J'ai pas envie de vous perdre avec trop d'explications. En même temps, j'essaye de trouver la bonne manière de le faire, surtout parce que Tristan va être un petit peu plus absent maintenant pour des raisons qui lui sont propres. Et donc, je vais pas me retrouver assez souvent seule. Donc, n'hésitez pas en fait à contacter toute l'équipe de l'émission via les contacts qui se retrouveront du coup dans notre nouveau spot de pub de fin d'émission pour éventuellement nous aiguiller sur ce que vous aimeriez entendre, mais que ce soit dans la manière dont c'est fait, mais aussi des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, des chansons que vous aimeriez passer, des artistes que vous voulez nous recommander. N'hésitez surtout pas. Je vais tousser, j'arrive. Me revoilà. Et donc, on arrive à la fin de cette émission. Pas de jeu aujourd'hui parce que jouer toute seule à un blind test que j'aurais préparé et dont j'aurais les réponses, ce ne serait pas forcément très amusant. Mais normalement, la semaine prochaine, Tristan sera avec nous. Pour vous rappeler, on va parler de... on vous avait parlé donc l'avant-dernière semaine de décembre de ce qui se fait de bien en termes de culture sociale, en termes d'engagement politique, d'engagement dans l'antiracisme, etc., etc., dans le métal. Mais on a bien conscience que tout ça... c'est à nuancer, il y a beaucoup d'artistes qui ont fait de nombreuses bêtises, parfois impardonnables, enfin pour moi, pas pour tout le monde, visiblement. On ne va pas faire des coucous à chaque fois, mais je pense que vous voyez très bien de qui je veux parler. Je vous souhaite d'ailleurs une très bonne année. Waouh, c'est anarchique cette fin d'émission, c'est terrible. Une bonne année et je vous souhaite le meilleur pour 2026. Je me souhaite le meilleur à moi aussi et à toute l'équipe de Kill et Vilaine si jamais ils m'écoutent ce soir. Au pire, je leur dirai la prochaine fois que je les verrai en espérant qu'il y ait un petit peu moins de verglas d'ici la semaine prochaine. Et puis, une personne à remercier, je ne sais pas si elle écoutera cette émission, mais il s'agit de Rod Glacial qui a sorti fin de l'année dernière, en octobre il me semble, un énorme bouquin sur le hardcore. C'est littéralement la bible du hardcore. Il y a absolument tout. De ses débuts jusqu'à aujourd'hui, et c'est vraiment tenu de manière très propre, puisque le bouquin contient à la fin donc une espèce de bibliographie de tous les albums hardcore classiques. Il y en a 100 au total. Et le dernier album qui est cité dans ce livre date de 2025. Donc vraiment, c'est tenu avec beaucoup de rigueur. C'est très juste dans la manière dont c'est fait. C'est très bien fait. Je vous invite vraiment à aller acheter ce livre si jamais le sujet d'aujourd'hui a suscité votre intérêt. Parce que personnellement, pour moi qui est une personne qui écoute du hardcore depuis vraiment très très longtemps, ça date du collège environ, je peux vous dire que ça a été vraiment une plongée dans un genre que finalement je connaissais peut-être pas si bien que ça. Je vais vous dire au revoir et vous souhaiter une très bonne semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Kill et Vilaine. Et en attendant, portez-vous bien. Salut! Ici le service après-vente de Kill et Vilaine. Si votre dose de métal hebdomadaire vous semble insuffisante, ou si votre projet mérite d'être entendu, ou si vous travaillez dans l'ombre mais que votre taf vous semble intéressant, nous avons la solution pour la promo de votre musique, une suggestion ou même une proposition d'interview. Contactez notre service clientèle par mail killetvilaine@gmail.com, sur Instagram killetvilaine sans majuscule tout attaché, ou via le formulaire d'envoi sur la page de l'émission sur le site de Syllab. Kill et Vilaine, le service après-vente du métal, merci de votre confiance.
Non, Max.
Connaître.
brutal.
Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Chaque semaine, le père de Merck se rend dans les magasins de disques pour faire ses courses. Il achète toutes les nouveautés de musique black metal qui lui paraissent suspectes. Son but, traquer les attaques antichrétiennes et tout ce qui lui paraît blasphématoire.
Vous êtes malade ! Vous êtes malade !
C'est moi ou il y